Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. C'est un épisode de l'Évangile, ainsi que celui qui nous est raconté dans le passage du Livre des Rois, placé en première lecture, que nous ne sommes pas tellement habitués à entendre. On connaît plus sans doute le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus rappelle à la vie Lazare, son ami Lazare. On connaît mieux ce passage de l'Évangile, mais ici, on se trouve en Galilée, au cours des années publiques du ministère de Jésus, et voilà, il va poser un acte de grande compassion en rappelant, en réanimant cet homme qui est mort. On ne nous dit pas si c'était un enfant, un jeune ou un adulte, peut-être un adulte. En tout cas, sa maman était veuve et il était son seul soutien, au fond, son seul soutien social et financier, économique. Et donc, son décès frappait sa mère de plein fouet, si j'ose dire, et elle se trouvait totalement seule, isolée. Et Jésus, donc, prend pitié de cette maman et va opérer ce signe étonnant d'un retour à la vie terrestre, non pas d'une résurrection, je n'aime vraiment pas ce mot employé dans cette circonstance. Ce n'est pas une résurrection, c'est un retour à la vie terrestre. La résurrection, c'est vraiment autre chose. C'est recevoir un corps glorieux qui ne peut plus souffrir, vieillir, mourir, et passer déjà dans l'autre monde, la résurrection. Mais ici, comme pour Lazare, comme pour la petite fille qui avait 12 ans, Jésus va rappeler cet homme à la vie terrestre et le rendre à sa mère. De même, on voit le prophète Élie accomplir un signe identique, déjà quelques siècles avant Jésus, alors qu'il logeait chez une veuve aussi, chez qui d'ailleurs il avait fait un premier signe qui consistait, alors qu'il se trouvait donc en pays étranger, parce qu'il était pourchassé en Israël, et que c'était la famine, donc il n'y avait plus rien à manger. Et si vous connaissez le premier livre des Rois, l'épisode c'est qu'il a dit à la femme, va me faire cuire un pain, elle dit, j'ai plus rien, il dit, mais fais quand même cuire un pain, et finalement, eh bien, il y a eu de la farine et de l'huile pendant des jours et des jours et des semaines et des mois. Et donc Élie logeait chez cette veuve, et il y a cet épisode tragique où le fils de cette veuve est décédé. Et son premier réflexe a été d'accuser Dieu et d'accuser le prophète, en disant « Mais qu'est-ce que tu es venu faire chez moi, puisque mon fils est mort? Est-ce que tu es venu semer la mort ?» C'est ainsi que nous accusons Dieu fréquemment, en tout cas autour de nous, plein de gens accusent Dieu, soit de ne rien faire, soit en tout cas même d'être pervers et de faire mourir. D'ailleurs, peut-être faudrait que nous-mêmes nous changions nos logiciels à cet effet. Souvent, nous pensons que Dieu fait mourir. Or, Dieu appelle à une autre vie précisément, qui est la vie glorieuse et la vie de la gloire, appelle à une nouvelle naissance. La mort est un passage à une nouvelle naissance en Dieu. Et j'aime pas cette pensée que Dieu fait mourir, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de nous tuer. Mais en fait, il nous appelle à la vie glorieuse. Quelquefois c'est long, n'est-ce pas, les personnes qui sont très très âgées, il y en a beaucoup maintenant, quelquefois disent « Oh, mais enfin ça dure, J'ai une vieille maman de 95 ans qui me dit ça de temps en temps, qui finalement voudrait bien partir au fond. Et voilà, le Seigneur nous appelle à passer dans sa gloire. Alors je ne sais pas ce que nous pouvons tirer de ces deux passages, parce qu'on se trouve affronté à des passages de la Bible ici qui nous semblent ne pas tellement nous concerner. On ne va pas faire des miracles comme ça en rappelant des morts à la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet évangile ? Peut-être modifier effectivement notre façon de regarder la mort et nous dire que Dieu est un Dieu de vie. D'ailleurs, c'est ce qui est très marquant dans la première lecture. Cette veuve dit au prophète Élie : « Maintenant, je sais que ta parole est vraie. » Et le prophète Élie lui a dit : « Regarde, ton fils est vivant. Ton fils est vivant. » Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Dieu est un Dieu de vie, Dieu donne la vie, Dieu appelle à la vie. Et la parole véridique, c'est une parole qui convoque à la vie, qui provoque la vie, qui porte la vie. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement marquant dans ces passages de l'Évangile. Et puis, je pense, la compassion à la fois du prophète Élie et puis de Jésus, la compassion qui est dans le cœur de Dieu. Comme il est dit déjà dans le livre de la Sagesse, 2 siècles avant Jésus, Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Et Jésus, devant la mort qui nous frappe, est souvent profondément ému et vraiment est prêt à tout pour nous aider et nous faire sortir de la tristesse. Et ici, il accomplit un grand signe, un grand miracle, qui est évidemment particulier, puisqu'à travers cela, il annonce sa propre résurrection, comme il le fera une semaine avant sa passion avec le retour à la vie de Lazare. Il annonce sa propre résurrection, et donc ce n'est pas tous les jours que Jésus va poser ces signes-là, bien sûr, mais en même temps, il nous aide vraiment à être des hommes et des femmes qui doivent annoncer cette résurrection, annoncer cette vie. Souvent, et j'entendais encore ça tout à l'heure à Catéo, pendant mon petit déjeuner, souvent nous disons que Dieu a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous sauver. Dieu a envoyé son fils mourir pour nous sauver. Mais mourir et ressusciter pour nous sauver. Et ressusciter, car Jésus, effectivement, a porté sur lui notre péché. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité pour nous. Et il nous invite à vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de vie. Et pour terminer, peut-être je voudrais souligner comment, dans la seconde lecture, qui n'a rien à voir avec les deux autres, et qui nous est proposée aujourd'hui, Paul se présente aussi comme un témoin de la vie. Il a fait une expérience, dit-il, extraordinaire, puisque quand il en rend compte aux Galates, il dit « Mais au fond, mon évangile, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu, c'est directement de Dieu. J'ai fait une expérience forte. » C'était à Damas. Le chemin de Damas, la conversion de Paul. Et il dit qu'il est resté pendant 3 ans sans rencontrer personne. Enfin, il a sans doute rencontré des chrétiens quand même. Mais en tout cas, aucun des apôtres de Jésus pendant 3 ans. C'est au bout de 3 ans seulement qu'il est descendu à Jérusalem. Et il dit, j'ai rencontré Pierre pendant 15 jours. Mais pas les autres. Puis j'ai rencontré Jacques, le premier responsable de la communauté de Jérusalem, le cousin de Jésus, premier évêque de Jérusalem. Mais voilà, il n'a pas vu les autres. Catéchèse un peu courte pour quelqu'un qui a évangélisé tout le bassin méditerranéen. Et pourtant, le Seigneur est capable, dans une conversion forte comme ce fut celle de Paul, de donner une telle lumière que cet homme, quelque part, est déjà, on pourrait dire, au top niveau de la foi chrétienne et de ce qu'il a annoncé et ce dont il doit témoigner. Il ne faut pas que nous soyons étonnés, effectivement, quand nous rencontrons autour de nous des personnes qui, quelquefois, n'ont pas fréquenté nos milieux d'église, nos circuits d'église, et qui, brusquement, ont fait une expérience forte de conversion et se sont laissés enseigner par Dieu de façon directe et forte et ont véritablement le feu de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes pour témoigner. Il ne faut pas nous en étonner, Ce sont des façons de faire de Dieu aussi qui sont les siennes et qui nous dépassent. Mais en même temps, il est bien clair que cette expérience ensuite doit venir se réinsérer à l'intérieur de la communauté de l'Église, d'une façon ou d'une autre. Ce fut la démarche de Paul qui s'est rendu à Jérusalem, qui a pris contact avec Pierre, qui s'est laissé affiner dans son expérience catéchétique par Pierre lui-même, qui est rentré en communion avec Pierre et qui ensuite, à travers les messages écrits qu'il enverra, ces lettres que nous lisons sans cesse, eh bien, se croisera avec Pierre et avec Jean aussi. En tout cas, Jean, ce sera plus tard, mais Paul sera déjà martyr. Mais en tout cas, entre Paul, Jacques et Pierre, les lettres vont circuler et ils vont lire les lettres qu'ils envoient les uns et les autres, se lire les uns et les autres. Et ces trois-là, Paul, Jacques et Pierre, sont véritablement les protagonistes d'une évangélisation du bassin méditerranéen, non seulement à travers des voyages missionnaires comme ce furent ceux de Paul, mais aussi à travers des écrits, essentiellement ceux de Paul, mais aussi les deux lettres de Pierre et la lettre de Jacques, et qui sont en consonance les unes avec les autres. Et c'est ainsi que l'expérience de Paul s'est réinsérée à l'intérieur même de l'Église, a été mise au diapason de l'expérience de l'Église. Et quand nous rencontrons des personnes autour de nous qui ont fait une expérience forte, directe, d'en haut de la foi, eh bien, c'est à nous de les emmener, j'allais dire, en communion avec toute l'Église, à une communion plus profonde avec l'ensemble des chrétiens. C'est notre mission d'annoncer l'Évangile. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de faire de nous des hommes et des femmes porteurs d'un message de vie, de résurrection, de retour à la vie, de lumière pour tous ceux que nous rencontrons.